Créodyssée. Voyager et se perdre dans la création. Un podcast présenté par Géraldine Jojou et réalisé par Éric Blanc.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Créodyssée, le podcast consacré aux acteurs de la création, à leur modalité d'approche du travail artistique, mais également aux passeurs d'œuvres d'art et animateurs d'espaces dédiés à l'imagination. Lors de cet épisode de Créodyssée, nous allons nous consacrer justement à ces entremetteurs, ceux qui permettent l'éclosion et la vitalité de lieux de rêverie et d'inspiration pour les artistes. Lors de la saison précédente, nous avons déjà eu l'occasion d'en questionner quelques-uns. On a pu se rendre compte notamment de leur rôle dans la programmation des artistes et de leur influence sur l'évolution des scènes, avec Gilles Gauthier et l'association Jazzus. On a pu s'apercevoir également qu'ils avaient la capacité à faire émerger des lieux uniques, récepteurs et émetteurs d'innovations avec Anne-Sophie Vély et Maison Vide. Aujourd'hui, nous allons compléter ce tableau en parlant de leur rôle de transmission, leur fonction de passerelle entre artistes et public. D'un côté, les créateurs, leurs inspirations, leurs motivations, leur appétence de public, leur besoin d'échanger ou de livrer le résultat de leur trouvaille. De l'autre, un public, de générations et de cultures hétérogènes, vivant sur un territoire donné et ayant l'habitude de frayer ou non avec les pratiques artistiques. Comment faire le lien entre ces deux groupes? Comment faire en sorte de faire passer l'art entre toutes les mains, qu'elle soit de quartiers ou d'espaces périurbains, d'hypercentres de métropole ou de petites villes de province? Comment permettre à chacun de se forger les bonnes clés de lecture des œuvres d'art, celles qui permettent de s'initier à la création, de les comprendre ou peut-être tout simplement de les apprécier? Comment inviter des personnes dont le quotidien est parfois très éloigné des préoccupations esthétiques ou poétiques à la reconnaissance du travail artistique et éveiller pour ceux qui en sont au balbutiement de leur existence aux premiers éblouissements, terreau d'une future sensibilité qui s'exprimera à l'âge adulte? Force est de reconnaître que tout n'est pas fait sur notre territoire, ou plutôt qu'à l'instar des densités de population, il y a de fortes inégalités. Et qu'apporter le rêve partout est un travail de longue haleine. Et pourtant, le droit à l'émerveillement et à l'épanouissement de l'âme ne pourrait-il pas faire partie des droits fondamentaux, notamment de ceux des plus jeunes d'entre nous? Alors pour permettre que l'art circule un peu, pour les libérateurs de feux follets et de comètes argentées, nous interviewons pour notre plus grand plaisir et le vôtre, Mateia Billac-Petit. Bonjour.
Bonjour.
Directrice du Centre de création pour l'enfance de Tinqueux, dont le travail est justement de construire des ponts entre les âmes et la poésie. Alors, comme dans tous les épisodes de Créodyssée, on aime bien d'abord s'intéresser à la personne qui vient nous parler et on aime bien la connaître un petit peu mieux. Alors, Mateia, est-ce que vous pourriez nous dire si vous venez d'une famille d'artistes?
Mais pas du tout.
On aime bien quand ça commence comme ça. Alors, expliquez-nous.
C'est toujours le bon départ. Non, pas du tout. Après, il y a l'histoire personnelle derrière. C'est pas une famille d'artistes, mais c'est une famille qui aimait les arts, qui aimait rêver, qui aimait s'émerveiller, le mot que vous avez utilisé dans le mot d'entrée. Une mère surtout qui nous aimait les enfants, qui n'a pas eu de la chance de faire les arts ou l'artiste parce que ses parents lui ont interdit. Donc du coup, elle est devenue comptable.
Oui.
Mais qui a toujours laissé l'espace autour d'elle pour que nous, on puisse faire ce qu'on a envie, là, pour qu'on aille là où le cœur battait.
Vous vous rappelez d'artistes dont elle vous aurait parlé?
C'est pas elle qui me parlait des artistes. Mmh. Justement, c'est peut-être un point très important et intéressant. Mmh. Elle n'était pas artiste, elle ne connaissait pas beaucoup d'artistes. Mmh. Mais elle avait l'âme d'artiste.
Mmh. Oui.
Et c'est elle qui m'a incité à aller pratiquer les arts dès toute petite.
Mmh.
Et c'est en rencontrant les autres artistes que quelque chose s'est passé qui m'a attachée à cette ligne de plantes d'artistes qui se développent plus tard.
Ouais. Vous avez donc pratiqué des domaines artistiques, enfin vous avez fait des rencontres petites, enfants?
Toute petite déjà. Bon, je suis d'origine slovène, c'était l'ex-Yougoslavie à l'époque. Mm-hmm. On peut dire plein de choses négatives de cette période, mais il y a une qui était bonne, c'était l'accès démocratique à l'art et la culture.
Mm-hmm.
Donc on nous emmenait au théâtre, on venait, les artistes venaient à l'école. Mmh. Donc ça, c'était mes premières rencontres. Mmh. On pratiquait beaucoup la poésie, mmh, de tout petit. Moi, je me souviens des premières récitations sur la scène où j'ai vécu les premiers émois, mmh, intérieurs.
Ouais.
Et puis en réalité, c'est quand j'avais 9 ans, ma mère, elle m'a dit, maintenant, il faut que tu choisisses une pratique artistique. Mmh. Et je voulais devenir écrivain. Mmh. Voilà. Je me croyais déjà capable d'être écrivain. Mmh. Puis, j'arrive dans un centre comme dans celui où on est actuellement. Mmh. Et on me dit, bah non, t'es trop petite pour commencer à devenir écrivain, mais mmh, par contre, tu peux faire des marionnettes. Mmh. Oh, 9 ans, on se dit, non, c'est pour les petits, je veux pas le faire. Et puis, finalement, je suis rentrée dans cette activité,
ouais,
avec un groupe de personnes plus âgées que moi, mmh, qui m'ont embarquée, et j'ai plus jamais quitté la marionnette, par exemple.
Ah oui, alors là, oui, vous avez fait quoi avec donc les marionnettes? Des spectacles? Vous avez créé des spectacles? Vous avez participé?
C'est ça. Au début, c'était prendre des textes des autres, des marionnettes des autres, mmh, pratiquer, mmh, donc, tout simplement, presque artisanal. Mmh. Ensuite, c'était nos textes et puis nos mises en scène. Mmh. Et on créait des spectacles autant qu'amateurs. On, mmh, est devenus semi-amateurs et, mmh, puis on est devenus professionnel.
D'accord. Et le contact avec le public, c'était ce que vous ressentiez?
C'est vraiment, sans me vanter, parce que parfois ça paraît tellement étrange, mais c'était tellement naturel. Mm. Donc à 9 ans, mm, j'étais pas encore sur scène, mm, mais j'ai participé à toutes les représentations, mm, des grandes.
Ouais.
Et un jour, une des grandes était malade.
Ouais.
Et elle avait le premier rôle. Mm. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il faut jouer 3 spectacles dans la journée. Mmh. Et timidement, je dis, mais moi, je l'ai vu tellement vu que je connais par cœur.
Ouais.
Et en fait, je suis rentrée en scène le même jour. Et depuis, voilà.
Sans trac, sans peur,
sans aucun trac.
Sans aucun trac.
Et ce qui était étrange, c'est que c'était une fois où mes parents, justement, étaient présents. Mmh. Et je les ai oubliés. Pour moi, à l'instant où le spectacle a commencé, mmh, il y a comme une magie qui a opéré, mm, où je suis bien, mm, je me suis appuyée sur mon intuitif, que jamais lâché,
ouais,
et je me dis, voilà, la vie c'est ça, il faut aller, il faut sauter, et puis quand on est au bon endroit, au bon moment, mm, on le sent, on le sait.
Et, donc,
et c'est pas une mesure de qualité, mm, je parle vraiment de résonance intérieure.
Mm-hmm. Et à partir de là, vous vous êtes dit, je veux travailler dans ce domaine?
C'est pas si simple que,
oui,
ça.
J'imagine.
Parce,
ouais,
que on le pratique autant qu'amateur, et puis on est timide, et puis on s'imagine jamais et devenir professionnel comme ça, mm-hmm, de choix.
Ouais.
Mais finalement, en écoutant sa vie,
ouais,
on fait des petits choix qui deviennent des grands choix.
Ouais.
Donc la transmission, c'est aussi quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, mm-hmm, je voulais devenir professeur, mm-hmm, des écoles. Et puis au moment où il faut choisir sa fac, mm-hmm, il y a la possibilité de faire l'académie du théâtre.
Mm-hmm.
Et donc là, il faut s'inscrire. Il y a des examens d'entrée. Il y a un AXIS, mm-hmm, aux parents qui sont pris. Donc on a le trac.
Ouais.
Et puis on le passe comme ça. On est choisi parmi les 6, mmh, qui vont faire l'école de théâtre. Donc, j'ai étudié la dramaturgie.
Ouais.
Donc, c'est ces choses-là aussi qui m'ont orientée.
Ouais. Et donc, comment on arrive à la rencontre avec cette maison, avec ce centre de la création?
Donc, mes études, j'ai fait en Slovénie. Mmh. Mes débuts professionnels, j'ai fait en Slovénie. Puis ensuite, je suis partie en France pour rencontrer le Festival mondial des théâtres de marionnettes,
oui,
en 88.
Ouais.
Et c'est à ce moment-là où il y a la rencontre de cœur qui, ouais, se fait, mmh, avec mon mari, avec qui on vit toujours ensemble. On s'est rencontrés, on s'est fréquentés pendant 4 ans, et puis après il fallait décider qu'est-ce qu'on fait. Mmh. Donc je reviens en France.
Ouais.
Je ne parle pas français à ce moment-là. Je pense que je vais devenir maman de 5 enfants, que je vais avoir mon petit théâtre de marionnettes à la maison, mmh, et que de toute façon c'est la vie qui emporte.
Mmh.
Et puis petit à petit, on bougeait avec mon mari,
mmh,
et après plusieurs déménagements en France et à l'étranger, on arrive à Tinque.
Mmh.
Et c'est ici que je rencontre ce centre de création pour l'enfance.
Ouais.
Où je suis d'abord bénévole, je suis adhérente avec ma fille,
mmh,
et puis petit à petit, affinité,
ouais,
appétence,
ouais,
on se rencontre.
Qu'est-ce qui vous a plu dans le fonctionnement de ce centre qui existe quand même depuis un certain temps?
C'est le mélange des publics, le mélange d'activités, il y a des adhérents, il y a des artistes, il y a de la poésie, il y a une sorte de... C'est un lieu de vie qui m'a permis de pratiquer moi-même, de me former moi-même, d'emmener ma fille. Voilà, c'est vraiment un lieu qui fourmille et qui est une ressource sur plusieurs plans. Et puis aussi, ça ressemblait à quelque chose que j'ai vécu enfant. C'est cette accessibilité de l'art et la culture pour tous. Cette possibilité d'offrir aux enfants ce temps où ils peuvent se rencontrer eux-mêmes et de peut-être trouver quelque chose qui va être leur moteur pour la suite. Tout le monde ne le rencontre pas.
Oui, c'est pas... tout à fait.
Mais déjà, donner cette possibilité à tout le monde. Je pense que c'est ça qui m'a liée à ma propre histoire. C'est pour ça que c'est tellement organique et logique que je continue ici.
Alors justement, vous venez d'en parler très précisément et on va expliquer un petit peu comment fonctionne ce centre de création pour l'enfance. D'abord, est-ce que vous savez depuis quand il existe et quels étaient les objectifs de départ? Est-ce qu'ils ont évolué, ces objectifs?
C'est une belle histoire puisqu'elle dure depuis 61 ans. L'association a été créée en 1960 à la demande des habitants de Tinqueux, à Cointincien, qui voulaient avoir un espace culturel. Donc ils voulaient pratiquer, se rencontrer, pratiquer la couture, pratiquer patchwork, pratiquer les langues. Et puis petit à petit, avec les directions qui sont passées, et particulièrement avec la présence de Michel Fréard, le centre est devenu une MJC, puis ensuite un centre d'art, pour utiliser les mots qui précisent le plus ce que c'est le centre aujourd'hui. Donc ça a évidemment évolué, et heureusement. Et dans les années 80, non pas dans les années, mais précisément en 98, le Centre de création pour l'enfance a pris ce nom et a reçu le prix d'innovation de la part du ministère de la Culture pour son innovation dans le domaine d'éducation artistique. C'est depuis cette 1998 que nous pratiquons déjà le parcours d'éducation artistique, puisque l'accès à l'art et la culture a été, à partir de ce moment-là, proposé à tous les élèves de Tinqueux, dès la maternelle jusqu'au primaire. Et ça, par contre, n'a pas changé depuis.
D'accord. Donc c'est vraiment l'idée d'accueillir ce public qui est lié à un territoire donné et lui donner toutes les possibilités d'accès aux pratiques artistiques et de rencontres avec les artistes. Alors, il y a plusieurs angles, en fait, dans le fonctionnement de ce centre de création. Il y a, vous organisez des événements, vous accueillez des artistes, vous organisez également des ateliers pour les enfants, vous avez même créé une revue, et vous êtes aussi un lieu de rencontre pour les professionnels. Est-ce que c'est compliqué, ce fonctionnement, avec toutes ces branches?
Parfois, c'est compliqué de saisir l'ampleur de toute cette activité qui est assez rhizomique. Donc il y a des pôles comme ça, mais tout est quand même lié et irrigué les uns entre les autres. Si je resitue un tout petit peu de la manière que moi je vois le centre, donc on est toujours ce centre culturel avec les activités qu'on pratique après le temps scolaire ou adulte en temps libre. Il y a l'éducation artistique pendant le temps scolaire où on touche toute la population des enfants scolarisés à Tinqueux et au-delà. Et ensuite, il y a la partie création et diffusion qui, à la base, servait l'éducation artistique sur le territoire, mais qui, avec le temps, est devenue une force majeure du centre, puisqu'on crée des expositions itinérantes ou les jeux d'artistes, on crée les spectacles de marionnettes, poésie, jeunesse, et on a aussi une activité maison de la poésie avec les éditions, avec les poètes en résidence, avec le marché de la poésie, avec la revue, tout ce que vous avez dit avant. Donc en fait, ces trois pôles sont horizontales et dans la verticalité, on va trouver tous les publics. On va s'adresser à l'enfant, on va s'adresser à la famille, mais après on va s'adresser aux artistes, et puis aux professionnels, et puis voilà, donc tous les publics se mélangent à plusieurs endroits possibles.
D'accord. Vous êtes combien pour faire fonctionner cette structure, si c'est pas indiscret?
Parce que j'aimerais bien qu'on soit beaucoup plus, mais en réalité, on est 4 et demi, si j'ose dire demi pour une personne, parce qu'on est 5, mais plus emploi aidé, plus une personne qui actuellement est à notre service pour un tout petit peu structurer les choses. Mais ensuite, il y a 25 animateurs et puis environ vingtaine d'artistes qui vont fréquenter le centre pendant toute l'année.
Est-ce que c'est suffisant, en tout cas, juste pour le fonctionnement en lui-même du centre, 5?
Alors, d'un côté, c'est suffisant puisqu'on le fait, mais de l'autre côté, non, absolument pas. Il nous manque le fond de fonctionnement, parce que, bon, on va pas parler de ça, probablement, mais c'est le fonctionnement qui est le plus difficile à assurer dans le temps. Donc, il manque absolument une personne qui nous aiderait dans le développement du public, dans la communication surtout. Parce que si on fait plein de choses et que c'est assez unanime et reconnu que c'est de qualité, il manque la visibilité.
Et c'est quelque chose de très dur qu'on retrouve dans tous les domaines, avec toutes les institutions, la visibilité à obtenir, en fait.
Tout à fait.
Ouais. Ça reste quand même un élément commun. Est-ce que vous établissez un calendrier des activités de votre centre qui se répète, ou alors au contraire qui va essayer d'aller dans une nouvelle direction chaque année?
Un peu des deux, parce qu'il faut toujours se renouveler un tout petit peu. Donc, dans les activités régulières, ça se répète pas mal, sauf avec les départs et des arrivées des intervenants. Ensuite, il y a un calendrier fixe qui est lié à des événements comme marché de la poésie, nuit de la lecture, partir en livre. Et puis, chaque année, on s'autorise un non-calendrier qu'on va fixer au fur et à mesure par rapport à des rencontres, par rapport à des mouvements, des intérêts des uns et des autres.
D'accord.
Et puis, surtout, ce qui nous tient à cœur, c'est tous les ans, on change le thème.
Ah.
Et ce thème est notre guide, notre ancrage, qui nous stimule pour que tous les ans, chaque personne du centre se repose la question de qu'est-ce qu'on pourrait proposer par rapport à ce thème.
Et alors justement, comment vous le définissez, ce thème? Comment vous le choisissez?
C'est difficile d'expliquer comment on le trouve, mais c'est en commun, c'est collaboratif.
D'accord. C'est pas imposé par des institutions,
ah,
c'est pas imposé par des personnes extérieures.
Absolument pas. S'il y a une chose qui nous identifie aussi, c'est la liberté. On est centre de création pour l'enfance, assez unique, c'est pas le mot, mais il n'y en a pas d'autres comme ça. Et donc, on n'appartient pas à un réseau, donc il n'y a pas d'influence, on est assez libre. Même temps fragile, mais cette liberté, on la clame haut et fort. Donc, du coup, on se donne, nous, nos contraintes qui sont nos moteurs.
D'accord.
Et on le choisit vraiment par rapport à l'actualité, par rapport à la réalité de la vie. L'année dernière, il y a 2 ans, c'était désobéissance. Ensuite, c'était refuge. Cette année, on a travaillé sur les points de vue parce qu'on trouvait qu'on a tous beaucoup de points de vue différents sur la situation. Et l'année prochaine, on s'est imposé le thème s'accorder. Et s'accorder entre nous, mais s'accorder du temps aussi à s'en sortir de ce qui nous est arrivé.
Donc,
voilà. C'est aussi pour vivre avec le temps présent.
Donc, vous accordez une place importante, en fait, à l'espace de société, enfin, à la vie en société, finalement, au travers de l'art. Ça reste un élément clé.
C'est clé, c'est vital. Et d'ailleurs, dans notre société, c'est ce qui est le plus difficile, à mon avis, à tenir. Puisque d'un côté, vous avez l'actualité qui est aussi saccadée, si rapide et qui pousse. Et de l'autre côté, vous avez des projets, des appels à projets qui, une fois annoncés, sont déjà passés. Donc, nous, on se situe où? Donc, on cherche toujours le maintenant.
Alors justement, vous parliez de projets et on va s'orienter un petit peu sur les artistes qui viennent dans ce centre de création. Alors comment vous les sélectionnez ?
C'est pareil, c'est une histoire de rencontre. Déjà, aucun artiste ne vient travailler au centre avant qu'on s'est rencontré pour de vrai. Et pour de vrai, c'est pas juste en buvant un café, c'est en testant. Est-ce qu'on est compatible? Parce que nous travaillons avec les enfants, et donc la transmission de l'artiste à l'enfant est importante. On peut super bien aimer le travail d'un artiste, mais peut-être que ce n'est pas la personne qui pourra rencontrer les enfants. C'est rare qu'elle n'est pas compatible, parce que des fois, elle ne le sait pas.
Ah.
Et c'est là où nous, on va se placer.
Oui.
On va chercher ensemble l'endroit où l'artiste peut rencontrer les enfants s'il pense qu'il ne peut pas.
D'accord.
Mais en tout cas, je reviens un peu en arrière, c'est toujours une histoire de rencontre. On essaie de parler de qui est le centre de création pour l'enfance. Mm-hmm. On essaie de comprendre l'artiste, qui il est, qu'est-ce qu'il a à montrer. Mmh. Et ensuite, on va créer la synergie avec tous nos partenaires.
D'accord.
Donc, c'est pas choisi par un catalogue, mmh. mais c'est choisi aussi par les coups de cœur des uns et des autres. Mmh. Je vais écouter l'équipe, ils vont me dire, bah, tiens, ce musicien, je pense que franchement, ça marcherait avec les enfants. OK.
C'est une sorte de veille, en fait.
C'est
de
ça.
De veille artistique, vous observez.
Parfait.
Et du coup, c'est national ou c'est local, cette veille?
Ah non, c'est surtout. Ben, c'est les deux.
C'est les deux, ouais.
C'est les deux, puisque dans nos missions, c'est aussi le soutien à la création. Mm-hmm. Donc, on va être dans l'émergence, mm-hmm. on va être dans les très connus, on va être dans le local, national, voire international, mm-hmm. avec mes petites origines slovènes.
Ouais. Mais comment vous faites le partage, justement? Enfin, il y a combien d'artistes qui viennent dans une année, tiens?
C'est
difficile à dire.
Je parlais de la liberté. La liberté, des fois, est...
Ah oui, dans le nombre aussi.
Dans le nombre aussi. Mm-hmm. Parce que je ne m'impose pas autant d'artistes.
D'accord.
S'il y avait peu de rencontres, il y aura peu d'artistes. Mm. S'il y avait un artiste qui avait beaucoup d'idées, mm. ben, je vais laisser à cet artiste la place mm. pour qu'il puisse se déplier. Puisque sinon, c'est juste l'éphémère et on va passer à côté.
D'accord.
Par contre, des fois, c'est un cercle d'artistes qui va me sembler intéressant pour présenter un paysage. Mm. artistique. Donc,
d'accord.
du coup, ils seront plusieurs.
Ouais.
Là, cette année, dans une école de Reims, pour la cité, l'école Trois Fontaines, on avait un joli projet, résidence d'artistes, mais ça me semblait important qu'il y ait trois artistes mm-hmm. à l'école, c'était pour la poésie, mm-hmm. pour que les enfants voient les différentes dimensions de la poésie.
Mm-hmm.
Elle est tellement peu connue que si on envoie un artiste,
ouais.
on donne fausse
oui,
image,
ouais.
parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas aimer cette une personne.
Mm.
Par contre, en proposant trois, mm. ben, le paysage est plus large et il y a plus d'enfants qui ont pu se reconnaître.
Mm.
Donc, combien d'artistes? Ben, ça dépend des projets, ça dépend des années. Mais globalement, on est dans vingtaine d'artistes dans l'année.
Okay.
Arts plastiques, musiciens, marionnettistes, comédiens. Mm. Poète, beaucoup de poètes, et toujours la poésie.
Et donc, vous disiez une répartition entre ceux qui sont en émergence, ceux qui sont déjà connus. Alors, comment vous faites le partage, justement? Enfin, vous essayez de faire, je sais pas, un tiers, ou, c'est-à-dire laisser autant de place à ceux qui sont les plus jeunes et puis ceux qui sont les plus connus?
Moi, je dirais, c'est un peu comme dans la cuisine, un peu de tout.
Mmh.
Un peu de... C'est vraiment une histoire... Encore une fois, on n'est pas dans la... technique, on n'est pas dans l'artisanat, mm. On reste toujours dans l'écoute artistique.
Mm.
Si j'ai un artiste national très connu et que dans local je connais quelqu'un qui est en émergence et que la rencontre avec cet artiste pourrait être intéressante, mais voilà, je vais inviter l'autre aussi. Si à l'inverse, j'ai pas ce lien-là, je vais pas le faire.
Mm.
Mais comme j'ai pas fait le lien avec un local à ce moment-là, je vais chercher quelqu'un du territoire sur un autre projet.
Mm-hmm. D'accord. Et vous disiez que vous testiez un petit peu les artistes dans leur rapport avec les enfants. Alors, sous quelle forme se passe le test? Bon, on sait bien que c'est pas un test médical, hein, ni scientifique, mais mm-hmm. comment vous évaluez ça?
Oui, c'est pas un test et c'est très ouvert. Mm. Chaque artiste, je dis, on aimerait bien travailler avec vous mm-hmm. ou toi. On a une manifestation, on propose une rencontre avec les enfants
mm.
et on voit si
et
ça
là,
a fonctionné.
Voilà, c'est là où vous jugez s'il y a passage, transmission.
Là, à partir en livre qu'on mm. prépare actuellement au marché de la poésie, il mm. y a des artistes qui viennent pour toute la période et puis il y a des artistes qu'on va inviter pour les rencontrer.
Mm-hmm. Et ça vous est arrivé de vous tromper?
Oui, tout à fait. Et puis les deux, l'artiste et moi-même, on a
ouais.
dit que ce n'est peut-être pas un chemin à prendre ensemble.
D'accord. Alors, une fois que l'artiste est en train de créer, alors il crée sur place, c'est ça que je voudrais savoir. Si donc vous avez dit que vous aviez aussi un rôle de producteur, donc il crée sur place un spectacle, une exposition. Bon, vous allez me dire, ça me dépend des domaines artistiques, mais
oui,
voilà.
Je suis désolée à chaque question, je réponds ça dépend et c'est large. Ça dépend des artistes.
Oui.
Il y a Pierre Soletti, il va venir en résidence de poésie ici, mmh. il va faire les activités avec les publics scolaires, extrascolaires, adultes,
mmh.
mais il va écrire sur place.
D'accord.
À l'inverse, on avait la résidence de Nathalie Fortier, qui est plasticienne illustratrice. Elle préférait créer chez elle et venir avec un produit vers nous.
D'accord.
Ensuite, on va avoir les artistes, une compagnie qui va venir en résidence de création ici. Donc là, on va créer ensemble. Et on va pouvoir apporter notre compétence en travaillant avec eux en même temps.
D'accord.
Donc de nouveau, c'est
à chaque fois, il y a une restitution de ce travail réalisé sur place ou pas ?
Il y a toujours une trace de passage. Il y a une étape, une restitution. C'est pas toujours la restitution. Des fois c'est une trace. Des fois c'est dans la revue VA où on va avoir une trace d'un auteur, un travail avec les enfants. Des fois c'est un spectacle qui va émerger de travail qui était amorcé ici. Nathalie Fortier, pour la reciter, elle crée une exposition avec nous, mais cette exposition, on va la garder un an. Ensuite, elle va continuer à la développer, et plus tard, ça sera une grande exposition dans laquelle le centre va avoir une petite part, puisque ça a démarré ici.
Oui, c'était une question que j'allais vous poser, si les œuvres d'art restent sur place ou pas.
Certains oui, certains non. Les commandes restent chez nous, et l'accueil des résidences repart.
Alors, est-ce que justement, on a passé une période assez difficile depuis un an et demi avec l'arrivée de la crise sanitaire. Comment ça s'est vécu par rapport à ça ? Est-ce que les résidences ont été interrompues ? Est-ce que l'espace de création a été fermé durant toute cette période ?
Je dirais que rien n'a été interrompu, mais on a dû s'adapter. En tout cas, on n'a annulé aucun événement, on n'a annulé aucune résidence, sur principe. Et l'appel a été fait à tous mes partenaires, tous les artistes, tous les animateurs. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, il n'y avait pas de chômage partiel, mais on est resté actif. Et donc, on a pu faire beaucoup de numérique, évidemment, mais on a aussi fait beaucoup de déplacements, malgré tout. Puisqu'un déplacement professionnel était autorisé, nous avons autoriser nos auteurs à se déplacer, à venir sur Attinque. Ensuite, tant qu'on pouvait aller dans les écoles, on est allé dans les écoles, donc ce travail a été maintenu tout le temps.
Ouais.
Marché de la poésie jeunesse en février, on ne voulait pas l'annuler et déplacer, parce qu'il y a tellement de choses d'annuler et déplacer qu'il y a l'embouteillage à la fin. On s'est vraiment penché sur l'histoire de qu'est-ce qu'on peut faire malgré tout. Donc, au lieu de faire à l'intérieur, on est allé dans la rue. Et la magie, on a rencontré beaucoup plus d'aquatinciens que d'habitude. Donc, toute cette période, à part la première partie, hein, parce que je pense que le premier confinement, on était tous juste abasourdis, accablés, en attente. Je me souviens que j'arrivais même pas à parler à ce moment-là. Et ensuite, on s'est ressaisis et j'ai vu que c'est que ensemble, en étant dans la synergie, dans l'activité, dans le fonctionnement du cerveau, qu'on va pouvoir traverser cette période, mais pas la traverser, la vivre. C'est ça qui me semblait important pour tous, pour les artistes, pour nous. Et j'ai eu plein de retours des artistes qui sont venus à Tinqueux et qui sont allés ailleurs en disant « Allez, allez, il faut se bouger, il faut se bouger, il faut bouger notre cerveau, il faut qu'on reste actif. »
Oui, ça a été générateur d'un dynamisme positif, en
Absolument.
Fait.
Absolument.
Ouais, vous avez tiré quelque chose de fort de cette période. Justement, alors vous faisiez allusion au marché de la poésie, donc on va passer un petit peu aux événements que vous organisez. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce marché de la poésie ? Quel est l'objectif qui se fixe, ce marché ?
Déjà, il y avait un besoin à la base. On a parlé de la diversité de propositions du centre et je trouvais que le public ne voit pas assez et pas assez fort ce qu'on fait au centre. Donc, il fallait créer, à mon avis, un événement fort dans l'année qui peut fédérer tout le monde. Ensuite, notre bataille de cheval, c'est la poésie et présenter la poésie telle qu'elle s'écrit aujourd'hui au maximum de personnes, et particulièrement les enfants, qui adorent la poésie d'aujourd'hui. Et on a constaté qu'il n'y a pas de salon de livres consacré que à la poésie jeunesse. Donc voilà, on s'est un peu amusé avec ce fait-là, et on a réuni les auteurs, les éditeurs, les libraires, et autres professionnels qui pratiquent la poésie, que ce soit des chercheurs ou tout simplement les enseignants et les bibliothécaires. Dès la première saison, ce besoin a été confirmé comme réalité. Et du coup, ça a pris aussitôt. Tous les partenaires ont validé la nécessité de cette
de
ce salon.
De ce marché.
Du coup, c'est tous les ans, on réunit d'autres auteurs, d'autres éditeurs pour montrer un peu la palette d'écriture d'aujourd'hui. On rencontre d'autres structures en France qui font la poésie pour les enfants aussi, mais pas que. Et du coup, on a créé presque un cercle, un réseau des structures qui ont à cœur la diffusion, la transmission autour de la poésie.
La poésie a une particularité, c'est qu'elle est, bon, il y a à la fois le texte, c'est sûr, mais il y a aussi l'espace sur lequel elle est réalisée, qui est un support esthétique. Donc, c'est vrai que ça donne un aspect très diversifié au marché aussi, parce qu'il y a à la fois de la création plastique et puis du texte.
Oui, il y a le poème, il y a ensuite l'impression de ce texte, et le dire aussi de ce texte. D'ailleurs, parlons des éditions, au même temps qu'on a créé le marché de la poésie, on a développé notre activité éditoriale. En plus de la revue Va, qui a suivi la revue Dans la Lune, dans le temps, on a créé la collection Petit Va, où il y a un auteur, un livre, pour justement créer des outils de diffusion de la poésie, avec plastique ou sans plastique, parce que ça, pour nous, c'est un grand débat. Des livres très colorés avec des belles images peut-être ne laissent pas assez de place à un poème à jaillir, à se développer dans l'esprit de celui qui le lit. Donc voilà, on a veillé à ça. Oui, le marché, c'est vraiment la rencontre de tous les arts qui naviguent autour de la poésie. Donc des fois, on a fait rencontrer les bédéistes et les poètes. Ensuite, on a fait rencontrer les musiciens et les poètes. Chaque fois, on essaie d'aller chercher dans un autre domaine
direction,
aussi, les danseurs et la poésie.
Vous parliez de vos éditions, donc ça c'est très intéressant, ces deux revues, Va, Petit Va, qui donnent suite à la revue Dans la Lune. En fait, vous recherchez à faire quoi au travers de la création de ces revues?
C'était créer un outil qui permet à des personnes qui voudraient transmettre la poésie aux jeunes à se nourrir de ces outils comme ressources. Qui sont les auteurs qui écrivent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils écrivent? On crée aussi des petits exercices à l'intérieur.
D'accord.
On fait des jeux typographiques.
C'est plutôt à destination des professionnels, alors? C'est plutôt...
Au fil de temps, on réalise que la revue Va est plus adressée aux professionnels. Elle est tout à fait accessible à un enfant ou à un parent qui va partager cette poésie avec son enfant. À l'inverse, Petit Va est adressé à l'enfant. Parce qu'il est déjà ludique à la base, ce livre avec la spirale, un peu cartonné, mais toujours sans image.
D'accord. Et il arrive que vous produisiez aussi des livres qui soient le résultat d'une résidence?
Ça, c'est des hors-séries, effectivement. C'est des coups de cœur. Des fois, il y a un auteur qui... un artiste, ça peut être un plasticien, un musicien, qui va être en résidence et il va être très éditorial dans sa création. Donc, on va conclure sa résidence avec l'édition d'un livre.
Alors justement, au travers de l'édition et du marché de la poésie, on va maintenant parler du lien avec le public, parce que c'est quand même le cœur du sujet, et on est content de vous avoir sous la main pour vous poser la question. Comment ça se passe justement ce rapport au public? Vous avez choisi, enfin le centre a choisi de s'adresser aux enfants plus particulièrement. Alors comment se fait cette approche de ce public enfant? Ici. Vous avez parlé par exemple du passeport culturel tout à l'heure. Voilà, c'est une façon tout à fait originale de considérer l'enfant par rapport à sa pratique artistique.
Oui, parce que pratiquer régulièrement, c'est une belle possibilité d'y s'y attacher dans le temps. Ce passeport culturel est vraiment une richesse sur le territoire. Le mot est assez provocateur, hein, passeport culturel. Mais c'est une richesse parce que grâce à ce dispositif, on intervient dans toutes les écoles de Tinque. Ça veut dire que tous les enfants sont concernés. Donc, toutes les familles sont concernées. C'est déjà un contact avec tout public. Et on voit que c'est nécessaire, mais aussi utile, parce que on va recevoir ensuite les familles qui naturellement ne viendraient pas dans un centre culturel, mais qu'on a invité à une exposition, qu'on a invité à venir chercher une revue, qu'on a invité au marché parce que l'enfant dit un poème au marché. Donc c'est vraiment un dispositif qui nous permet d'inviter tous ceux qui sont déjà convaincus de la nécessité de la culture pour l'enfant, mais aussi les familles qui auraient peut-être peur ou un estime trop élevé, parce que c'est pas toujours la peur. Parfois, on s'autorise pas à dire que c'est pour moi aussi. Donc, oui, ce passeport culturel nous permet ça. Très rapidement, passeport culturel, c'est un livre qui est offert à la naissance. Ensuite, la rencontre avec un artiste tous les ans de la maternelle jusqu'à fin de primaire. Mais une vraie rencontre, pas de 1h30, mais plusieurs rencontres
avec
qui permettent pratique artistique, la rencontre et tout savoir reconnaître cet artiste. Ensuite, une particularité de Tinqueux, on offre à chaque enfant scolarisé tous les ans une nouvelle œuvre, une sérigraphie qui a été dessinée par un artiste qu'on a choisi exprès pour les enfants de Tinqueux. Donc cette œuvre est imprimée en 1000 exemplaires, signée, numérotée, et ensuite offerte aux enfants pour qu'ils se constituent vraiment une collection d'œuvres d'art tout au long de leur scolarité.
C'est unique comme système, ce passeport culturel, ou ça existe ailleurs ?
Je pense qu'au départ, c'était vraiment unique. Mais heureusement, ça se propage.
Ça s'est propagé parce que c'est quand même assez exceptionnel. Enfin, vraiment, chaque enfant est pris en considération. Il reçoit beaucoup au travers de ce passeport.
Tout à fait. Peut-être des fois, on pourrait presque dire trop, mais on veille à un lien entre toutes ces propositions pour qu'à la fin ça se renforce l'un et l'autre et qu'on ne soit pas justement dans la consommation. Par exemple, cette année, Nicole Pérignon nous a créé l'œuvre pour les enfants, et comme c'est 10 ans de la revue VA et que c'est Nicole Pérignon qui met en page la revue, les enfants ont pu reconnaître l'artiste dans l'œuvre comme dans la revue, et l'un et l'autre se sont amplifiés.
D'accord. Et vous voyez donc les enfants depuis plusieurs années grandir. Est-ce que vous voyez donc dans leur rapport à l'art ou dans leur discours des choses qui ont fonctionné, qui ont été transmises ?
Très régulièrement, les artistes qu'on invite à Tinqueux, qui rencontrent les enfants Tinqueux, disent « Mais dis donc, ils sont éveillés, ils ont des bonnes questions. Ils demandent pas seulement « Est-ce que je gagne beaucoup ?» mais ils me demandent comment je crée, qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce qu'ils pensent de ce que l'artiste a proposé. Si, il y a une vraie empreinte.
Voilà. Et de l'enfant vers sa famille, il y a aussi une transmission que vous pouvez observer, vous, quand les familles viennent à votre contact?
On voit surtout la fierté des familles où on n'aurait pas imaginé que l'enfant a cette capacité. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir en retour. Quand on voit un parent qui est inquiet, qui vient voir son enfant pour lequel il n'a peut-être pas connaissance de sa capacité, et de le voir vivre une expérience, c'est magnifique.
Et pour les artistes, alors quel est leur retour de ces contacts avec ce public enfant? Est-ce qu'ils trouvent que c'est un public compliqué, ou alors un public qui peut-être les stimule?
Non, c'est un public compliqué dans le bon sens du terme, parce qu'il va pas juste se taire et regarder, écouter, mais il va dire j'aime pas, j'ai pas compris, qu'est-ce que tu voulais dire. Il y a la provocation très honnête de l'enfant. Donc les artistes, je pense qu'ils aiment beaucoup rencontrer les enfants, en tout cas ceux qu'on a invités ont toujours témoigné ce plaisir. Mais au centre, il y a une autre richesse aussi, parce qu'on parlait des publics, c'est la rencontre entre les artistes. Parce que très souvent, les artistes vont se rencontrer très rapidement dans un salon, ils vont se dire « Oh, chouette, on se entend, on se comprend », mais après, ils vont se perdre de vue. Et si on prend un peu de temps, on invite les artistes en même temps, donc c'est un peu le vivier des artistes de différents domaines artistiques. Donc on a plein de résultats, de collaborations qui sont issues de Tinqueux. Il y a des livres qui sont nés ici, les plasticiens, les auteurs qui se rencontrent. Il y a des musiciens qui se rencontrent avec les auteurs. En tout cas, j'ai toujours le retour des éditeurs, des organisateurs qui sont fiers de dire, tiens, on a continué votre projet.
Mmh. Et de toutes ces expériences, il y a après des échanges entre professionnels. Alors là, on ne parle plus d'artistes, mais donc de professionnels autour de l'enfance et de l'éducation à l'art, etc. Vous tirez quelque chose de toutes ces années d'expérience, enfin, vous arrivez à transmettre à d'autres...
Il y a deux compétences qu'on a développées, sur lesquelles on est sollicité maintenant régulièrement. C'est... la poésie et la jeunesse, donc là, cette transmission, la ressource, la bibliographie, mais aussi la ressource des artistes potentiels.
Oui.
Et la deuxième compétence, c'est spectacle jeunesse, les tout-petits. L'accueil des tout-petits pour le spectacle et l'adresse du comédien pour le tout-petit.
Voilà. Donc c'est une expérience que vous avez fixée dans des articles, des communications, en fait, qui vous permet d'aider en fait, les autres structures à élaborer des approches, j'imagine.
C'est ça, c'est avec nos propres créations, donc les productions sur place... On a navigué et c'est grâce à ces productions que la compétence est devenue visible.
Alors, on va passer à la dernière partie de l'interview sur la transmission. Alors d'abord, quel regard vous portez, vous, sur votre carrière ici, sur les projets que vous avez mis en place? Est-ce que vous en êtes satisfaite? Est-ce que vous êtes encore frustrée? Que vous avez encore envie d'aller dans une nouvelle direction par rapport à ce temps que vous avez passé ici, ce que vous avez essayé de construire?
C'est toujours par vagues qu'on vit chacun son histoire, je trouve. De temps en temps, on se dit « Oh là là, je crois que j'ai fait le tour » et puis c'est à ce moment-là où vous découvrez que vous avez encore tout à faire. Donc, surtout, je me sens à ma place, et ça, c'est plaisant. À ma place grâce à l'équipe qui est là, grâce à notre projet artistique et social aussi, grâce à tous les artistes qu'on rencontre, mais surtout sur place, parce que j'ai l'impression que je suis dans une nouvelle période. Je suis d'ailleurs en train de préparer le projet pour les 5 années à venir, où la poésie prendra encore plus de place. Donc... après, la vie, je l'aime, donc ça va.
Les cinq années à venir, donc ça veut dire qu'il faut que vous projetiez quand même assez loin et tout peut être perturbé, on l'a vu. Donc c'est juste des directions que vous établissez, puis vous vous autorisez de changer, j'imagine.
Exactement, c'est comme quand on commence ses études, on a envie de devenir quelqu'un et puis la vie fait qu'on y arrive ou pas. L'essentiel, c'est d'être content à la fin.
Oui.
Donc ces 5 ans nous permettent... de un peu œuvrer dans le même sens. C'est des directives, c'est des idées, des projets, mais ce n'est pas des choses très précises.
Je vous ai demandé, comme à tout à chacun, de préparer une petite présentation d'un artiste ou d'une œuvre d'art. Alors, je vous laisse en parler.
Alors, mes origines vont parler. Depuis tout ce temps-là, je n'ai jamais vraiment quitté la Slovénie. Professionnellement, personnellement, je reste attachée. Mais il y a un artiste qui me permet de vivre la Slovénie et le monde entier, c'est Matija Solce. C'est un marionnettiste, musicien, que j'ai connu comme enfant, parce que c'était l'enfant des amis marionnettistes à l'époque, qui a développé une capacité extraordinaire d'être exigeant avec lui-même dans ses créations, mais en même temps avoir une ouverture humaine, humaniste, un rôle de rassemblement des artistes extraordinaire. Donc Matija Solce, il crée des spectacles tout seul, dans la rue, avec son accordéon, avec ses marionnettes, objets, manipulés à merveille. Je défie qui que ce soit de manipuler une marionnette aussi bien, puisqu'en plus, il est docteur de marionnettes et poésie, doctorant de l'école à Prague, qui a lié la marionnette et la musique, comme la marionnette qui doit bouger dans le rythme, toujours, comme nous, d'ailleurs. Donc, il fait ses spectacles de rue, mais il travaille avec quasiment tous les théâtres nationaux un peu partout dans le monde. Et puis, il a une capacité de fédération des autres artistes. Donc, en Slovénie, il a créé un festival dans une forêt où il y a 400 artistes qui se réunissent pendant 2 semaines et ils créent ensemble... Il teste, c'est un laboratoire vivant, et puis du coup, les gens, ils peuvent venir visiter ce festival. Donc pour moi, c'est lui que j'ai choisi parce que c'est un artiste vraiment entier, qui se pose plein de questions par rapport à ses créations, mais qui se pose vraiment il se pose plein de questions sur la société, sur notre vie, sur l'engagement, sur l'humanité, et comment préserver cette chose qui est vitale pour l'être humain, c'est la flamme intérieure, et indépendance et la liberté. Quand on est tous ensemble.
Oui, je crois que cet artiste vous ressemble. Il ressemble au travail que vous faites ici.
Merci.
En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant notre invité et son parcours en sous-texte de notre podcast, ainsi que les références concernant ses activités. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler. Vous pouvez également nous écrire au mail du podcast creodyssee@gmail.com pour nous faire part de vos remarques et de vos suggestions. Cet épisode a été réalisé par Eric Blanc ainsi que la musique et animé par moi-même. En attendant le prochain épisode, prenez bien soin de vous et restez curieux.